30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'expédition française de l'Annapurna de 1950. L'objectif est de réaliser la première ascension d'un sommet de plus de 8000 mètres dans l'Himalaya. Cette expédition permet à Maurice Herzog et Louis Lachenal d'atteindre le sommet de l'Annapurna le 3 juin 1950. Ils ont été accompagnés par deux autres alpinistes, Gaston Rebuffa et Lionel Terray. Cette expédition fait suite à une première expédition française en Himalaya de 1936, dirigée par Henri de Ségogne. En décembre 1949, une expédition française vers l'Himalaya se prépare. Lucien Devis, président de la Fédération française de montagne, en est l'un des principaux organisateurs. Mais les difficultés diplomatiques sont telles qu'on n'ose encore y croire. Et la nouvelle tombe. Le Népal ouvre ses frontières. Le 30 mars 1950, l'expédition quitte Paris pour le Caire. Puis le lendemain, elle prend la direction du Népal. La longue marche d'approche du sommet et l'établissement des camps de base prend 2 mois complets. Après de nombreux jours de reconnaissance et après un rapide examen des possibilités d'ascension sur la face nord de l'Annapurna, l'assaut est décidé le 22 mai. Il faut cette fois faire très vite puisque la mousson arrive aux environs du 5 juin. Le 3 juin 1950 à 6h, Herzog et Lachenal quittent leur tente en direction du sommet. Leurs membres commencent à geler. Lachenal doute, horrifié à l'idée de l'amputation. Herzog, quant à lui, refuse catégoriquement l'idée de renoncer si près du but. L'altitude altère leur comportement, leurs gestes sont lents, ils perdent la notion du temps. À 14h, ils atteignent le sommet de l'Annapurna. Pour la première fois, un homme met le pied sur un sommet de plus de 8000 mètres. L'Annapurna vaincu. Louis Lachenal presse son compagnon de redescendre. Herzog prend son temps, souhaite prendre des photographies pour immortaliser l'exploit. Il prend un cliché de Lachenal, flou. À son tour, Lachenal prend l'appareil, réalise une série de photographies d'Herzog avec son piolet en l'air et le petit drapeau français. Les deux vainqueurs du sommet sont gelés. Lachenal au pied, Herzog au pied et aux mains. Paris Match fait de l'Annapurna sa une du 19 août 1950 avec en couverture la photographie de Maurice Herzog au sommet avec son drapeau tricolore et titre « Victoire sur l'Himalaya ». Le magazine est écoulé à près de 320 000 exemplaires. Pour compléter sa une, le magazine débourse 600 000 francs pour acquérir un reportage photographique de 16 pages réalisé par Marcel Ischak et le récit exclusif des membres de l'expédition. Un documentaire réalisé par Marcel Ischak en 1953, intitulé « Victoire sur l'Annapurna », retrace le chemin de l'expédition et remporte un franc succès. Un livre, celui de Maurice Herzog, « Annapurna, premier 8000 », édicté alors qu'il est encore hospitalisé. Il se vend à près de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Amputé aux mains et aux pieds, après 2 années d'hospitalisation, de soins intensifs et 10 opérations, Herzog se lance dans une carrière politique. Maurice Herzog est né à Lyon le 15 janvier 1919. Éclaireur de France dans sa jeunesse, il rejoint Jeunesse et Montagnes. Jeunesse et Montagnes est une organisation créée en août 1940 après la défaite par l'armée de l'air française afin de donner une formation à la jeunesse, notamment aux jeunes qui auraient voulu devenir aviateurs, alors que les forces armées françaises étaient quasiment dissoutes par les autorités allemandes. Jeunesse et Montagne est donc une organisation sœur des chantiers de la jeunesse française, cette dernière fortement imprégnée de pétainisme. Elle est aussi l'ancêtre de l'actuelle UCPA, centre de loisirs pour la jeunesse. Herzog cherche à s'engager dans la résistance en septembre 1944 et devient capitaine de la 2e compagnie du 27e bataillon de chasseurs alpins au sein de la 5e demi-brigade de chasseurs alpins durant la campagne des Alpes d'hiver 1944 à 1945. En 1944, il est diplômé d'HEC. En 1958, il devient haut-commissaire à la jeunesse et au sport sous De Gaulle. Secrétaire d'État au sport de 1958 à 1966, député, maire de Chamonix. Il est l'homme de confiance du général de Gaulle afin de développer la pratique du sport pour former des champions qui seront les représentants d'une France forte en dehors des frontières, surtout après l'échec aux Jeux olympiques de Rome 1960. Un livre écrit par sa fille en 2012 écorne néanmoins sa légende. Il meurt en 2012 à 93 ans. Amputé au pied, Lachenal subit 16 opérations en 5 ans. Victorieux également de l'Annapurna, il est éclipsé dans la mémoire collective par Herzog, le chef de l'expédition. Louis Lachenal est né le 17 juillet 1921 à Annecy. En 1945, il effectue ses premières courses avec Lionel Terray. En 1954, il renoue avec les grandes courses, mais il meurt accidentellement à 34 ans, le 25 novembre 1955, victime d'une crevasse en descendant à ski la vallée blanche à Chamonix. Son livre posthume, relatant l'expédition de 1950, s'intitule « Carnet du vertige ». Passons en revue les autres membres de l'expédition française. Gaston Rebuffat est né le 7 mai 1921 à Marseille. Il découvre l'escalade dans les calanques de Marseille, puis à 16 ans, il s'inscrit au Club Alpin Français, section d'Haute-Provence, avec lequel il découvre la haute montagne. En 1940, il s'engage à Jeunesse et Montagne, où il rencontre Lionel Terray, qui devient son ami. En 1942, Gaston Rebuffat réussit son brevet de guide haute montagne, malgré son jeune âge, 21 ans, alors que l'âge requis était de 23 ans. Il poursuit son activité de moniteur à Jeunesse et Montagne et en 1944 devient instructeur à l'École nationale d'alpinisme ainsi qu'à l'École militaire de haute montagne. En juin 1945, il intègre la prestigieuse compagnie des guides de Chamonix. Il devient alors le 3e étranger de la compagnie après Roger Frison-Roche et Édouard Frendeau, alors que traditionnellement, il fallait être né dans la vallée pour pouvoir y entrer. Écrivain, il est l'auteur d'une vingtaine de livres sur la montagne et tourne plusieurs films. Il meurt en 1985 à 64 ans d'un cancer. Lionel Terray est né le 25 juillet 1921 à Grenoble. Auteur du livre « Les conquérants de l'inutile », il fait une chute mortelle en 1965 à 44 ans dans les arêtes du Gerbier, dans le Vercors. Il constitue, avec Louis Lachenal, l'une des meilleures cordées françaises de l'après-guerre, réalisant notamment la première répétition de la face nord de Léguerre en 1947. Léguerre étant aux Alpes ce que l'Everest est à l'Himalaya, toutes aux proportions gardées. Jean Cousy, benjamin de l'expédition en 1950, polytechnicien, a participé dans l'Himalaya aux expéditions nationales au Makalu, en 1954 et 1957, qu'il vint avec Lionel Terray le 15 mai 1955. C'est le 5e plus haut sommet du monde avec ses 8481 mètres. Il décède en 1958 victime d'une chute de pierre au cours de l'ascension de la crête des Bergers dans les Hautes-Alpes. Jacques Oudot est le pionnier de la chirurgie vasculaire en France. Il meurt à 39 ans dans un accident de voiture près de Bourg-en-Bresse en 1953. Marcel Chasse arrête l'alpinisme à la suite de l'expédition et il participe à l'élaboration de la première bombe atomique française. Il meurt en 1987. Marcel Ichac a réalisé le film de l'expédition « Victoire sur l'Annapurna » et écrit un livre « Regard sur l'Annapurna ». Francis de Noyel est le diplomate. Il deviendra ambassadeur au Népal. Il décède en 2017 à l'âge de 97 ans. Enfin, Ange Tarquet est le Sherpa de l'expédition. C'est le premier non-européen à recevoir la Légion d'honneur. Il faut replacer l'expédition française de 1950 dans le cadre de l'histoire de l'alpinisme, où les grandes nations de l'époque, États-Unis, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, Suisse, Japon, tentent de s'imposer sur les 14 sommets himalayens de plus de 8000 mètres. Le plus haut sommet de l'Himalaya et du monde est l'Everest, avec un pic à 8848 mètres d'altitude. Il est situé sur la frontière entre la zone du Sagarmentha au Népal et du Tibet en Chine. Le néo-zélandais Edmund Hillary et le Sherpa Tenzing Norgay, dans le cadre d'une expédition britannique, atteignent le sommet de l'Everest à 8848 mètres d'altitude le 29 mai 1953 et deviennent les premiers hommes à marcher sur la plus haute montagne du monde. Le deuxième sommet est le K2, qui culmine à 8611 mètres. Une expédition italienne, avec Achille Compagnoni et Lino Lacedelli, réussit à gravir le sommet du K2 le 31 juillet 1954, après 4 tentatives et 70 jours d'assaut. En 1939, les Allemands avaient échoué. Le K2, plus dur à atteindre que l'Everest, est la montagne des Italiens. Cette expédition aura néanmoins relancé une controverse entre Walter Bonatti, le plus jeune des 11 alpinistes italiens, et ses deux héros, qui avaient indiqué qu'ils avaient atteint le sommet sans oxygène, accusant Bonatti d'avoir utilisé des bouteilles d'oxygène, ce que Bonatti contestera toujours. Il aura fallu 50 ans à Walter Bonatti pour rétablir la vérité sur cette affaire, puisqu'en 2004, le club alpin italien annonce enfin que la version officielle de l'ascension est bien celle de Bonatti. Le troisième sommet est le Kanchenjunga, qui culmine à 8586 mètres. Une expédition allemande a tenté de le franchir en 1929. Il faudra attendre 1955 pour qu'une expédition britannique atteigne pour la première fois les 8586 mètres du Kanchenjunga. Quant aux Allemands, ils graviront un 8000 mètres en 1953 avec l'expédition au Nanga Parbat à 8126 mètres, plus précisément le 3 juillet 1953 avec Hermann Bull à la tête d'une expédition austro-allemande. Le Nanga Parbat, 9e plus haut sommet du monde, 8126 mètres, juste devant l'Annapurna et ses 8091 mètres. Il fascine, mais il tue. Une montagne dont l'histoire est marquée par d'innombrables drames. Le 29 juin 1970, l'Italien Günther Messner décède dans la descente du Nanga Parbat, 2 jours après qu'il a, avec son frère Reinhold Messner, ouvert une nouvelle voie et atteint le sommet dans des conditions météorologiques difficiles. L'année suivante, Reinhold Messner repart chercher le corps de son frère, mais celui-ci ne sera retrouvé qu'en 2005. En 2018, la Française Elisabeth Revol, himalayiste chevronnée, a été sauvée in extremis après avoir atteint son sommet. Son compagnon de cordée, le Polonais Thomas Mankiewicz, bloqué à plus de 7000 mètres, frappé de cécité, n'a pas pu être secouru. Elisabeth Revol dit « Je ne sais pas pourquoi, mais ça peut être la cécité des neiges. Ça peut être qu'il n'a pas mis ses lunettes pendant la journée et c'est simplement la brûlure des rétines. Ça peut être dû au froid, parce qu'il faisait extrêmement froid là-haut. Et quand on a reçu le vent sur l'arête, il a très bien pu faire un gel de cornée, ou bien carrément un début d'œdème. Ces 3 facteurs sont possibles. À partir de ce moment-là, je me suis effondré. Ensuite, soit on se projette et on y va par étapes. J'ai fractionné, j'ai instauré une espèce de routine, en me donnant des objectifs qui n'étaient pas trop loin. En premier, on rejoint le couloir. Ensuite, on rejoint la zone mixte et puis, et ça c'est obligatoire, c'est l'espoir en la vie qui fait tenir. Je pense que des mécanismes de survie se mettent en place. Quand on est alpiniste, on évolue dans un décor qui est avant l'histoire. Gaston Rebuffat a dit « L'un des plaisirs de haute montagne, c'est d'être dans une nature sauvage, sans trace d'homme. La réalité sans l'homme, les Alpes nous mettent encore dans une nature sauvage alors que tout le reste est dominé par l'homme. » On peut ajouter, année après année, des épaisseurs de glace disparaissent. Aujourd'hui, dans le massif du Mont Blanc, à haute altitude, les glaces qui sont apparentes ont 4000 ans. Demain, elles disparaîtront sous l'impact des activités humaines et 4000 ans de chronologie s'effaceront à jamais. la sagesse au bout de l'ascension, ou l'ascension comme apprentissage de la vie et donc de la mort. Mais à l'heure actuelle, en alpinisme, la performance reste toujours à l'ordre du jour. Une compétition s'est installée entre les grimpeurs de haut niveau pour celui qui serait le premier à gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres. C'est finalement l'Italien Reinhold Messner qui a été le premier en 1986 à réaliser cette performance.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.